Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Abemos papa.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, notre papa nous, c'est David Douillet. Il est avec nous dans cette émission, évidemment, dans les grandes gueules du sport, avec Fred Weiss, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous sommes très heureux d'être avec vous, évidemment, dans quelques instants. C'est l'événement sur RMC ce soir. L'interview exclusive de Neymar. Il veut absolument faire la Coupe du Monde. Une superstar peut-elle devenir un boulet pour sa sélection? On en débat et les GG ne sont pas d'accord.
On a des boulets ici, hein.
C'est vrai, mais là on va parler de Neymar. Oh. Mais on pourrait parler aussi de ceux dans l'émission. C'est vrai. On va changer d'ailleurs. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et sont dans le noir. Et pourtant, elles vont devoir débattre sur un sujet. Mais d'après vous, je vous ai choisi quel thème aujourd'hui, Jérôme Pinault.
Tu vas nous parler de Paul Pogba. Quel choix va-t-il faire? Quel choix doit-il faire?
Ah, Dimitri Payet, on en a parlé encore hier. Payet, les anciennes gloires de l'OM veulent.
Toi, tu veux le voir au PSG, je suis sûr.
Non.
Pourquoi? Ah, ben non. Trop star pour Luis Enrique.
Bah, au milieu de terrain, non, mais. Parce que Luis Campos dit, il y a besoin de personne au milieu de terrain.
Ah oui.
Un peu marré, ça.
Non, mais
il y a quand même Paul Pogba, mais bon.
Ouais, mais après, il discute beaucoup avec Luis Enrique, lui, il a la solution. Tu sais?
Ah oui, c'est vrai.
Les data.
T'as raison. C'était le débat de 10h30. Allez le réécouter en podcast. Fred Weiss, pas un débat basket parce que
non,
c'est pas ça.
Non, pas du tout. Tu me connais. Rien à voir. Tony Parker, qui répond à son frère, TJ Parker, et qui dit qu'il s'en fout un petit peu de ce qu'il dit. Je me disais que ça pourrait faire un débat plus global. Est-ce qu'on peut travailler en famille dans un club de sport de haut niveau?
Je rappelle.
J'ai essayé, moi, ça n'a pas très bien marché.
Voilà. Donc,
je rappelle que Tony a envoyé son frère TJ.
Il a dû le lire.
Ok. David Douillet, c'est quoi le débat caché?
Ouais, je me disais que la FIFA, avec son attribution des deux prochaines Coupes du Monde, ça pouvait être marrant, non?
Ça pouvait être marrant, comment ça marrant?
Bah, je sais pas, ils avaient pris des engagements, notamment environnementaux, et puis bon, voilà, je suis pas sûr que ça soit tenu sur les prochains pays organisateurs, je sais pas, juste ça comme ça. Quoi.
Ok, très bien, les attributions des Coupes du Monde, pourquoi pas, Christophe?
Ouais.
Il y en a marre des championnats du monde en petit bassin, faisons des championnats du monde en pédiluve.
Ok.
Mais alors, c'est déjà un pédiluve, le petit bassin, non?
Ça, c'est un débat vraiment caché. Mais vraiment caché, c'est sous caché. Le tapis des copains. D'ailleurs, tu parlais de Tony Parker. J'en profite pour dire que Tony Parker sera l'invité exceptionnel du RMC Poker Show avec Daniel Riolo ce soir et Moundir. Voilà, si vous avez envie d'entendre Tony Parker, non pas sur son frère.
Ancien basketteur, hein, Moundir aussi.
Sur le poker, exactement. Et puis 11h45, c'est votre moment, le 32-16. N'hésitez pas à réagir. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour, vous venez nous le dire au 32-16. C'est extrêmement important de vous entendre. Chers auditeurs, on a parlé de l'arbitrage, on a parlé de Pogacar, de Luis Enrique. Je rappelle cette information, Colomoigny est écarté par l'entraîneur parisien pour le match ce soir face à Lyon. Venez en discuter avec nous. On va débuter cette nouvelle heure avec un proverbe brésilien qui dit « Les paroles ne salent pas la soupe ».
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas soumettre.
Peut-être l'entrée de Neymar, bonite pour le goal.
Bonjour, ça va bien.
Neymar.
50% homme, 50% Dieu, 100% sauveur.
Cristiano.
Encore un qui se prend pour le fils de Dieu.
Messi pressiona, recibe, ahí está Messi.
Mais pas tout de suite, il ne faut pas y aller tout de suite. Mais c'est l'objet de notre débat. C'est une interview exceptionnelle à retrouver ce soir sur RMC dans Bartoli Time à 19h30 avec Marion Bartoli et Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut les grandes gueules, salut à tous.
Salut.
Depuis que tu côtoies Neymar, tu es resté le même.
Depuis
tu
veux bien record venir. Du monde, c'est plus le même homme quand même.
Tu veux bien venir dans les grandes gueules du sport, donc merci à toi.
Alors moi je vois les choses différemment. C'est qu'il faut interviewer Neymar pour être invité dans les grandes gueules du sport.
Oui aussi, c'est vrai aussi. Alors, il y a quelques jours, vous êtes parti en Arabie Saoudite pour rencontrer Neymar, un moment rare avec la star brésilienne qui n'accorde d'ordinaire aucune interview. L'occasion pour lui de fixer un cap, même s'il enchaîne les blessures depuis son départ du Paris Saint-Germain il y a un an et demi. Il veut jouer la Coupe du Monde 2026. Il aura alors 34 ans. Lionel Messi, aussi avec l'Argentine, veut étirer le rêve jusqu'en Amérique. Cristiano Ronaldo en rêve également avec le Portugal. Il se murmure même que CR7 voudrait aller jusqu'en 2030 pour jouer le mondial dans son pays. Il aura alors 45 ans. la musique qui fout les jetons et cette question. Une superstar peut-elle devenir un boulet pour sa sélection ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Bah oui.
Fred Weiss.
Oui.
David Douillet.
Oh oui.
Jérôme Pineau.
Pareil.
Tout le monde pense que oui, vous avez des arguments à faire valoir, évidemment. Je voudrais vous faire écouter Neymar, qui est ce soir sur RMC à 19h30. Il parle donc de la sélection, comme on dit.
Évidemment que la Coupe du Monde, c'est le but pour tous les joueurs. J'en ai déjà joué 3, je veux évidemment faire la 4e. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme, après m'être remis en forme ici, dans mon club.
Et voilà, 19h30, l'interview en intégralité avec Neymar. Tu vas nous en parler dans quelques instants et surtout tu vas répondre au GG parce que Neymar, on peut dire oui, ok, il fait sa place, il veut être tout seul dans cette équipe du Brésil, mais tu as des choses à répondre au GG.
Moi j'ai quand même dit oui, ça dépend qui, hein, de qui on parle, la personnalité du mec.
Bah vas-y, bah commence le débat alors.
Non mais ça dépend avec comment le mec va agir en fonction de son statut et s'il comprend qu'il est là pour pousser le groupe, aider le groupe, ou son ego parle de lui-même et il faut compter par lui.
Mais Jérôme, t'as compris la question ? La question, c'est des superstars. Superstars, l'ego par définition.
T'as des gens qui.
Non, c'est faux. Sinon, tu n'es pas. T'es pas une superstar.
Donc toi, tu n'es pas une superstar, Fred.
Mais moi l'avantage, voilà, c'est que j'en étais pas une. Tu en étais peut-être une. Mais dans ce cas de figure, il se passe que quelqu'un qui est une superstar a son ego. Il va arriver de toute façon comme ça. Honnêtement, quand j'ai commencé à y réfléchir, je me dis ça peut être que bénéfique d'avoir quelqu'un qui connaît le chemin pour gagner, quelqu'un qui ait ce pouvoir d'attraction et qui peut donner des conseils. Sauf qu'en y réfléchissant, tu te dis, mais qui est capable de se dire, ok, je me mets en retrait alors que je suis Messi, alors que je suis Ronaldo? Moi, je n'y crois pas du tout. C'est des joueurs qui veulent jouer. On l'a vu, Ronaldo, hein. La dernière compétition, elle était catastrophique. Il était tout le temps sur le terrain. Il a plombé son équipe. Et je me dis que justement, comme on ne sait jamais s'arrêter quand on est joueur en général, une superstar, c'est encore plus compliqué. Ça plombe obligatoirement parce que l'ego prend le dessus.
Ok, ça plombe obligatoirement. Benoît, tu peux répondre déjà sur ce point-là.
Moi, je pense qu'il y a un aspect culturel que vous négligez, parce que nous, on regarde ça dans les Français, et on se dit, oui, c'est pas un grand joueur, aussi fort soit-il, qui va comme ça monopoliser l'attention et qui va devenir une superstar en France et tout. Il y a un aspect culturel au Brésil, en Amérique du Sud, en Argentine, au Portugal aussi avec Ronaldo, c'est un bon exemple, parce que il y a quelques jours, même quelques semaines, avec Jérôme Rotten dans Rotten Sans Flamme, on est allé interviewer Vitinha, le portugais du PSG. Et quand on lui a demandé est-ce que Ronaldo sera à la Coupe du Monde 2026, il a dit oui sans hésitation. Mais c'est pas un oui pour faire plaisir ou un oui politique à Ronaldo, c'est que pour lui, c'est une vraie plus-value dans le groupe, Cristiano Ronaldo. C'est l'idole de tous les mecs qui sont dans le vestiaire. Donc si tu veux, c'est un exemple à suivre. C'est un mec.
Tu te rappelles de sa dernière compétition ? Mauvais, c'est pas grave. C'est juste qu'il a voulu tout le temps être sur le terrain, il a joué
énormément.
Mais
vous voyez forcément l'aspect négatif des choses en fait.
Forcément oui.
C'est des statuts incomparables. Messi, Ronaldo et même Neymar, parce que Neymar, on a tendance à l'oublier, mais Neymar, dans une sélection comme le Brésil, qui n'a pas gagné la Coupe du Monde depuis 2022, Neymar, c'est juste le meilleur buteur. C'est juste le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire de la sélection brésilienne.
Qui n'a pas joué depuis deux ans, il va t'apporter. Un an et quelques.
Mais en fait, vous mettez de côté, vous voyez le sport pur et dur, et je pense que peut-être que David aura ce regard un peu différent, mais il y a l'aura aussi qu'il ne faut pas négliger, et l'importance d'un mec comme ça, dans tous les moments de vie et dans les moments difficiles d'un match et d'une compétition.
S'il est capable de se remettre en question, s'il est capable de mettre son ego de côté, s'il est capable d'être là pour apporter à l'équipe. Et là, je suis d'accord. Sauf que qui est capable de le faire ?
Alors, c'est pas pour vous faire offense, mais dans les GG, on a une superstar qui s'appelle David Douillet, double champion olympique.
C'est sympa pour Christophe Cessieux.
Mais je crois que c'était moi.
Il est bien placé pour parler, même s'il a fait un sport individuel qui peut de temps en temps être en équipe. Est-ce que pourquoi ça devient un boulet, une superstar ?
Parce que quand t'es superstar, tu te rends pas compte. Tu prends pas assez de recul sur toi, surtout sur ce que tu es, ce que tu es devenu. Et la seule question qui vaille, c'est est-ce qu'il a le niveau déjà pour s'intégrer dans cette équipe et au moment où la compétition aura lieu. Après, le côté je tire les gens vers le haut, je suis un peu le leader du vestiaire et j'ai l'expérience. Oui, je le dirais. Alors je le dirais pour pour d'autres personnes. Je suis pas sûr que lui, il ait cette faculté-là. Mais là, je parle de l'homme. Est-ce que il a cette finesse d'analyse pour retransmettre aux autres? J'en suis pas convaincu. Je le connais pas, mais j'ai plutôt l'image de quelqu'un qui est très individualiste, qui pense un peu trop à lui, qui fait des fêtes, etc., etc. C'est un peu le folklore, quoi. Je suis pas sûr qu'il puisse se positionner réellement comme un espèce de capitaine honorifique d'une grande équipe. Donc c'est pour ça que j'ai mis des doutes sur lui et que je le considérerais plutôt comme un boulet plutôt qu'une plus-value dans une équipe pour faire une Coupe du Monde.
Bah Benoît, tu l'as rencontré. Est-ce que tu as ressenti la même chose? C'est vrai qu'il se dit beaucoup de choses sur Neymar, ouais. Mais toi, tu l'as ressenti comment?
Alors nous, c'est une appréhension qu'on avait au moment de le rencontrer. Nous, on l'avait jamais rencontré. Marion ne l'avait jamais vu, moi non plus. Enfin, en tout cas, je l'avais vu sur le terrain, mais pas en entretien comme ça. On s'est demandé quelle attitude il allait adopter, etc. Est-ce que lui, qui a tant d'expérience, qui est une superstar depuis qu'il a 17 ans et ses débuts à Santos, il allait, je sais pas, avoir une com maîtrisée, nous prendre de haut et tout. Bah, vous jugerez quand vous entendrez ce soir à 19h30, mais moi je l'ai trouvé au contraire plutôt sincère et sans l'envie de faire passer des messages comme on peut connaître avec d'autres sportifs. Donc,
de qui parles-tu?
Bah d'autres, plein d'autres, tu vois, oui forcément, on va se tourner vers Kylian Mbappé qui a une com parfaitement maîtrisée et tout, mais je trouve que c'est vraiment différent la façon dont il s'exprime.
Il est naturel.
Qu'est-ce qu'il dit de Mbappé d'ailleurs? Il dit quelque chose de Mbappé ou t'avais pas le droit de poser la question?
Il y a pas d'intérêt. Alors Neymar, le problème c'est toujours pareil, c'est que quand tu as la chance d'obtenir l'interview de Neymar, est-ce que tu te sers du temps précieux que t'as pour parler d'autres ou est-ce que tu parles de lui?
Tu parles de Neymar. Est-ce qu'il a envie de parler des autres quand
Alors ça c'est autre chose.
Non, mais la relation qu'il entretenait avec le garçon, est-ce qu'il a l'impression qu'il lui a mis des bâtons dans les roues? Mais ça, c'est le genre de question que normalement, quand il y a une com en place, t'as pas le droit de poser. Hein.
En tout cas, ce qu'on sait et ce qui a été constaté par tous les suiveurs du PSG, c'est que la relation sur les premières années entre les deux était excellente, avec cet aspect grand frère qu'avait Neymar pour Mbappé. Parce que souvenez-vous, ouais, que Mbappé, quand il arrive, il dit « je suis au service de Neymar, qui est un des plus grands joueurs du monde ». Force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun contact entre Neymar et Mbappé. Les choses ont évolué, les dernières saisons se sont passées différemment. Neymar a quitté le PSG dans des circonstances particulières liées aussi à l'avenir de Mbappé. Donc forcément, il y a une relation particulière entre les deux. Mais juste pour dire l'importance qu'il a au Brésil, vous l'entendrez ce soir, mais Neymar, il n'y a pas de question à se poser. Lui, le Brésil, c'est Adieu. Le Brésil avant tout. Et c'est lui qui décide s'il vient ou pas en sélection.
Que ce soit une icône,
c'est lui qui décide s'il va en sélection ou pas. C'est-à-dire que pour lui, voilà, il est tellement grand.
Comme Ronaldo, comme les grandes stars, comme Zidane.
C'est la culture dans ces pays-là. C'est la culture dans ces pays-là aussi de mettre des gens quasiment à l'égal de Dieu. C'est encore plus au Brésil. Après, qu'il le décide ou pas, la question c'est de savoir s'il a un intérêt à être, et ce qu'il va apporter à sa sélection.
Il y a une différence conjoncturelle, c'est ça, mais David, est-ce qu'il a le niveau? Il a joué 7 matchs en un an, donc c'est dur à dire. Il a mis un seul but depuis qu'il a quitté le PSG.
C'est la seule question.
L'autre vraie question, c'est que qui l'a remplacé en équipe du Brésil depuis qu'il est plus là? Eh ben personne.
Et l'équipe du Brésil ne va pas très bien.
Exactement. Donc en fait, il est attendu comme le Messi.
Il faut faire un parallèle.
Oui. Il y a quand même un parallèle à faire aussi sur son niveau footballistique parce que on entend que Ballon d'Or n'a pas joué, etc.
Vinicius.
Moi, je rappelle juste qu'en France, il y a un mec qui a été suspendu pour dopage qui va revenir dans pas longtemps. Tout le monde le voit déjà dans un grand club et en équipe de France, ça pose problème à personne. Il n'a pas joué non plus depuis un an et il était souvent blessé. Pourquoi Neymar n'y arriverait pas alors que Pogba va y arriver? Là, pour le coup, moi, je pense qu'à 34 ans, t'es pas acheté à la poubelle. Quand même.
Ouais, mais
c'est pas pareil que Cristiano va aller.
La question, c'est de savoir si une superstar peut devenir un boulet.
Si la superstar est en capacité d'amener sur le terrain des choses, peut-être pas sur les 90 minutes, mais au moment où il va jouer, ça change tout.
Mais évidemment, mais là on parle du principe qu'une superstar un petit peu rouillée, un petit peu fatiguée peut devenir un boulet.
Mais il y a eu des précédents même en France et Christophe, je te donne la main et je reviens David. Thierry Henry en 2010.
Il n'a pas le bon sélectionneur Henry. S'il a le bon sélectionneur à l'époque, ça se passe pas comme ça.
Sauf que c'est une icône en France, Thierry Henry, que Domenech l'emmène en sachant qu'il serait remplaçant et ça c'est très mal passé avec Thierry.
Il y a eu l'histoire de Benzema aussi quand même avec Didier Deschamps.
Ouais,
Benzema,
mais il est revenu au moment. Benzema est revenu pile poil au moment où quand Deschamps lui a dit tu viendras, mais quand je l'aurai décidé, tu vas jouer. Et
donc là,
comme j'ai envie.
Mais c'est parce qu'il
c'est
avait
pas
un statut
Benzema,
différent.
Benzema, je vais retourner
différent
avec
d'un Cristiano Ronaldo, d'un Messi
un
ou d'un Neymar.
Différent et un sélectionneur qui était capable de
les
tenir
trois
ce genre
de les trois dont on parle, les Portugais, Brésiliens et Argentins, ils font ce qu'ils veulent. Ils disent au sélectionneur je reviens demain et tu nommes le sélectionneur. Alors
ça,
qu'en France, le sélectionneur a encore la main, notamment sur Benzema. Après, je ne sais pas si Domenech avait complètement la main sur un Zidane. Je suis pas sûr que Deschamps. Alors, il essaye d'imposer la situation à Mbappé, mais Mbappé, lui aussi, risque à terme de se transformer en boulet parce que c'est.
Ah ouais, mais tu vois, regarde, Deschamps envoyé, est capable encore récemment Deschamps de dire. T'as voulu encore jouer avec moi. Le dernière sélection, t'es pas venu. Je te prends pas. C'est dans ces pays-là, je crois qu'on appelle Messi pour quand on change de sélectionneur, dire t'es d'accord que ce soit lui, quoi. C'est ça, on en est là.
Encore une fois, n'oubliez pas l'aspect culturel des choses. Comment vous voulez dire à Messi, écoute, tu viens plus, c'est lui qui a ramené la Coupe du Monde en Argentine, il a gagné deux fois de suite la Copa América, enfin, c'est un dieu vivant, le gars, il n'y a même pas photo.
Tant qu'il a une licence, il jouera. Il y a une question de David.
Quel est aujourd'hui le statut de Neymar? Bon, ça, vous en avez parlé là-bas sur place, c'est quasiment lui qui décide, mais est-ce que, en les connaissant plus finement maintenant, à 34 ans, est-ce qu'il va avoir la générosité de retransmettre à toute une équipe tout ce qu'il a lui-même reçu tout au long de sa carrière? Est-ce qu'il est dans cette phase de retransmission ou pas? C'est ça la vraie question.
Il parlera ce soir des rêves qu'il avait lorsqu'il était enfant. Donc la Seleção, c'était la priorité absolue. Il y avait son club de Santos au Brésil. Alors il a dépassé ses rêves parce qu'il a fait une carrière magnifique au Barça et puis ensuite quelques belles saisons au PSG. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Neymar, là-bas, c'est quand même quelqu'un qui a ramené la médaille d'or olympique au Brésil en 2016. Et ça, il y est très attaché. Il a même les anneaux olympiques tatoués avec Rio 2016 sur
donc
le poignet.
Donc il a envie de retransmettre, c'est ça?
Donc le Brésil, c'est plus fort que tout. Et donc, oui, ça va être comme Messi en 2022. Il va faire tous les efforts pour être au maximum de ses capacités en 2026 sur la Coupe du Monde.
Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas une chose, et c'est pour ça que la question de David est intéressante. On ne sait pas s'il revient aussi pour lui. Et j'imagine qu'aujourd'hui, en ces périodes de blessure, il ne pense qu'à lui et pas du tout à un collectif. Et c'est ça qui peut être compliqué pour lui, parce qu'il pense à lui, à être le sauveur, à ramener aussi, quand on est une superstar, à ramener la Coupe du Monde à la maison. C'est ça qui peut être compliqué aussi pour lui, à dissocier entre son réel niveau et ce qui peut aider l'équipe.
C'est l'attitude aussi du joueur d'abord, là. Mais là, on parle d'un gars qui n'aura que 34 ans à la prochaine Coupe du Monde. Il va pas, pour moi, il va pas aller à la Coupe du Monde pour être le grand frère du vestiaire. Il va être le joueur de la Seleção à un niveau supérieur qu'il ne l'a été et retrouver un tantinet soit peu, si c'est possible, son meilleur niveau et apporter aussi son expérience. Mais d'abord, ça passera par le footballeur. Je vois pas le sens d'emmener Neymar, si ce n'est pour les soirées d'après-match, en Coupe du Monde s'il joue pas. Le peuple a envie de le voir, tu vois, j'entends ce que tu dis, mais les gens, ils ont envie de le voir sur le terrain, ils ont pas envie de le voir sur le banc ou en jogos dans la tribune à dire au gamin qui va jouer, vas-y, c'est bon, c'est là, c'est ça, enfin, ils ont envie de le voir jouer, quoi.
C'est pour ça qu'il y a une question essentielle, c'est qu'il arrivera en fin de contrat en juin 2025 en Arabie Saoudite. Pour l'instant, il a disputé 7 matchs là, il a une blessure musculaire, il se remet petit à petit, il va rejouer dans pas longtemps. Le choix de carrière sur l'année qui vient, la saison d'ensuite, sera intéressant. Oui. Est-ce qu'il va rester en Arabie Saoudite?
Seul qui arrive à faire retour à très haut niveau et qui fait du grand football en jouant là-bas, c'est N'Golo Kanté. Les autres,
il y a pas quelques rumeurs sur un retour au Brésil, hein, ouais. Santos notamment. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut être un choix. En tout cas, il sera primordial ce choix de carrière pour Neymar. Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement, là, sans tout dévoiler, évidemment, peut-être la coulisse de cet entretien avec Neymar. Donc c'est à vivre ce soir à 19h30 sur RMC.
Je peux vous parler du cadre, Riyad, quand même, parce que c'est un peu un rendez-vous en terre inconnue pour nous quand on a débarqué là-bas, tu vois. Donc c'était à la fin du mois de novembre, il y a quelques jours. Donc on arrive dans une capitale comme ça, une ville un peu morte, un cas peu particulier, un centre d'entraînement qui a rien du faste du campus PSG par exemple, ou qui ressemble vraiment à un stade municipal quand t'arrives, parce que tu vois plein de petits gamins qui sortent, etc. Et tu te dis mais c'est pas possible, les pros s'entraînent pas là. Et finalement la sécurité te dit bah si, derrière il y a une allée, il y a tous les pros qui arrivent et c'est un peu lunaire comme contexte. Mmh. La vie là-bas doit être très particulière, mais une fois que t'as passé ce rideau, que tu vois le terrain d'entraînement, qui a rien envie ensuite au centre d'entraînement européen, tu te dis le gars est encore concerné par le foot, je pense.
Okay. T'as fait une partie de jeux vidéo avec lui ou non ?
Non. J'aurais bien aimé. Là, j'aurais pu le battre, peut-être.
Oui. Plus que sur le terrain, quoique s'il est blessé, tu peux te débrouiller.
Non, c'est sûr.
Merci beaucoup, Benoît Boutron, d'être venu avec nous. Neymar, c'est donc l'interview exclusive avec Marion Bartoli dans Bartoli Time ce soir à partir de 19h30. On te retrouve également avec Stephen Brun.
Ah oui, Stephen Brun. Hein, ça va être excellent. Attention.
À partir de 13h.
Ah ouais. C'est le rendez-vous du dimanche. C'est rendez-vous incontournable, 13h-15h. Sidney Govou sera avec nous d'ailleurs. Okay. Est-ce que Lyon peut le faire ce soir face au PSG?
Je vous rappelle cette information, Colomouani est écarté par Luis Enrique. Et puis évidemment, vous suivrez cette deuxième manche de ski, la deuxième manche du slalom à Val d'Isère avec Steven Amier qui est leader. Et c'est une course commentée par Léna Marjac à partir de 13h et son papa Sébastien Amier. Ce sera donc à vivre sur RMC. Merci beaucoup Benoît Boutron d'être venu nous voir ce soir. Et bonne interview à vous les auditeurs à partir de 19h30. Neymar sur RMC. Vous entendez les cloches là ? Il se passe quoi là ? C'est le jeu de Noël les copains. Et c'est Dominique qui a été tiré au sort. Bonjour Dominique.
Le grand Noël RMC.
Dominique, bonjour.
Bonjour les grandes gueules.
Oh, quel plaisir de te recevoir Dominique. Tu as remporté le jeu de Noël sur RMC.
Le plaisir est partagé.
Bon, t'es un fidèle auditeur ?
Ah oui, oui, depuis pas mal d'années, hein, on va dire.
Bah merci en tout cas. On récompense nos fidèles auditeurs et on est très heureux. Alors Dominique, tu as gagné, mais on ne sait pas encore quoi. Tu as un choix crucial juste à mes côtés. Regardez les GG, vous pouvez le voir aussi dans le studio RMC. J'ai un magnifique sapin avec David Douillet. Il y a une boule, David Douillet. Il y a Christophe Cessieux. Il y a Fred Weiss. Il y a Jérôme Pinault. Il y a même moi, les copains. Oui, j'y suis aussi sur le sapin de Noël. Dominique, c'est à toi de choisir. Pardon. Quelle boule veux-tu ouvrir ?
Moi, je vais prendre le grand David Douillet.
Ah oui, c'est bien. Allez, je peux dire qu'elle est plus grosse, la boule hein, de David Douillet, quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais.
Comment tu sais ?
Alors, tu as choisi David Douillet. J'ouvre, évidemment. Et tu viens de remporter, grâce à David Douillet, tu viens de remporter.
Le train cher, rideau.
Dominique. Tu viens de remporter 500 euros.
Ah ouais. C'est formidable.
Ouais, sympa.
Voilà. Ah.
C'est David, il est généreux, ce
c'est David qui fait
alors.
Le chèque en plus, donc franchement, c'est très sympa.
Il boule à 500, c'est bien.
Mais oui, 500 euros.
Excellent.
T'es heureux, Dominique, pour faire quelques cadeaux supplémentaires. Bon, bah, c'est chouette. On
tout
est très
fait,
heureux pour toi. Est-ce que tu voulais, comme ça, ouvrir pour le fun, hein, évidemment, mais une autre boule, là pour voir si c'était une bonne idée de vous.
La bonne nouvelle, c'est que David Douillet et Fred rentrent dans les boules.
Exactement. Donc j'ai Fred Weiss, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault ou moi. Voilà. Tu prends qui ? Comme ça.
Allez, vous.
Allez, c'est parti. On peut se tutoyer, mon cher Dominique.
Là, ça gagne rien, ça.
C'est juste pour le fun, évidemment. Tu viens de remporter 500 euros. Si tu m'avais choisi, tu aurais remporté, Dominique, un pack Nintendo Switch avec Mario Kart 8. Voilà.
Allez, bah. Voilà, ça,
tu peux me le donner pour mon fils, ça.
Voilà, c'était bien aussi. Mais bon, 500 euros.
J'aime bien la boule à David.
Voilà.
Aucune vanne, les copains. Aucune vanne.
Non, non.
Aucune vanne. Merci, les copains. Merci, Dominique, d'avoir été avec nous. Ils sont tous pliés. Bah, allez. On dirait des enfants de 5 ans dans le studio RMC. Dominique, on t'embrasse très fort. Passe de très belles fêtes de fin d'année.
Mais à vous également, et je remercie RMC beaucoup.
Avec grand plaisir, voilà. Et dans quelques jours, 500 euros pour toi. Vous pouvez, vous aussi, si vous voulez gagner de magnifiques cadeaux jusqu'au 24 décembre, vous envoyez Noël au 732-16, Noël au 732-16. Vous faites comme Dominique, voilà, ça peut vous aussi vous arriver. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. Je sais que ça va vous plaire.
C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait à l'antenne.
T'as mis du temps pour trouver une vanne. Hein. Allez, à tout de suite.
Non, non, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Fred Weiss. Sachez qu'à Val d'Isère, après la première manche du slalom, c'est Steven Amier qui est leader. À partir de 13h, il y aura la deuxième manche commentée par son papa, Bastoun, Sébastien Amier et Léna Marjac. Un autre sport d'hiver, c'est du biathlon à Auschwitzen en Allemagne. Maria Azé, le relais dame, vient de partir. Bonjour Maria.
Salut JC, salut les GG, salut tout le monde. Oui, ça vient de partir pour l'équipe de France. Bonjour. Alors c'est Julia Simon, la première relayeuse de cette équipe de France. Elle n'a pas l'habitude, la française, de partir en premier. C'est plutôt elle qui conclut les débats normalement. Mais avec sa forme actuelle, Julia Simon, on sait qu'elle connaît quelques petites difficultés depuis le début de saison. Bah, le staff de l'équipe de France a préféré la faire partir en première. Alors je vous donne la composition de ce relais féminin. Donc Julia Simon, je vous le disais, première relayeuse, elle est en tête. D'ailleurs, la française au passage du premier intermédiaire. Elle sera suivie par Justine Brezaz-Boucher. qui a connu quelques petites difficultés sur le tir ici à Orfilsen en Autriche. Puis ce sera Sophie Chauveau qui prendra le relais. Et enfin, la dernière relayeuse pour l'équipe de France, ce sera la Française en forme du moment, Lou Jean Monod, qui a remporté la poursuite hier après un 20 sur 20 au tir. Voilà, donc les Françaises veulent prendre leur revanche après le relais de Kontiolahti en Finlande où elles avaient fini deuxième. Elles vont tenter de remporter ce relais ici à Orfilsen en Autriche.
On te retrouvera sur le pas de tir dans quelques instants. C'est assez long, hein, évidemment, les relais. Merci beaucoup, Maria Zé. Allez, tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Réagir sur l'instant à une information, c'est le défi que je vous demande. Vous ne savez rien, mes GG. Et pourtant, il va falloir débattre. Il va falloir vous emparer du sujet. Le débat caché du jour. C'est ça.
Léon Marchand, deuxième position. Allez, c'est coulé. Pousse-la à 15 mètres. Allez, 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 Léon Marchand. Les derniers 50 mètres.
Il attaque. Allez,
il va attaquer. Et c'est maintenant que ça va jouer parce que Christophe Pilac, est-ce qu'il a tenté de bluffer, de partir trop vite? Léon Marchand revient. Léon Marchand revient à 15 mètres maintenant. Pilac est devant. Pilac est devant. Mais Léon Marchand, il va passer devant. Il va le faire. Mais oui. Mais oui. Léon Marchand.
Ah, on ne s'en lâche jamais, hein, avec Julien Richard pour commenter cette magnifique course, l'une de ses médailles aux Jeux Olympiques de Paris. Alors pourquoi Léon Marchand aujourd'hui? Parce que c'est le grand absent de ces championnats du monde petit bassin qui se déroulent à Budapest. Notre envoyé spécial, justement Julien Richard, a rencontré hier son entraîneur Bob Bowman qui s'est confié pour la première fois sur la nouvelle vie de son champion. Bonjour Julien Richard.
Rebonjour. Salut les GG, rebonjour.
Et l'ancien coach de Phelps avait des choses à dire.
C'est la première fois qu'on l'entend depuis la fin des Jeux Olympiques, hein, finalement. Bob Bowman qui a accompagné, il le dit, Léon Marchand dans sa décision d'appuyer sur stop, donc, et de ne pas se rendre en Hongrie.
Je l'ai soutenu dans cette décision. Il a eu un goût de ce à quoi va ressembler sa nouvelle vie maintenant. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est très stressant, premièrement, de préparer et nager les Jeux Olympiques et faire de grosses performances. Et ensuite, il y a toutes les choses qui vont avec. Après, même si elles sont magnifiques, mais qui tombent quand même dessus. Donc je pense qu'il faut qu'il prenne le temps de se recentrer mentalement et retourner à l'entraînement pour que l'on puisse commencer dès le premier jour de l'année à travailler pour cet été.
Il échange tous les jours avec lui par SMS. Bowman qui a une petite expérience en la matière, hein, puisqu'il a été le mentor pendant toute sa carrière de Michael Phelps, l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux. Et il s'attendait à ce que ce soit un moment donc délicat à gérer cet après-Jeux Olympiques.
I know exactly what it's like. I told him. Paris, I said, you know,
non, je sais exactement ce que c'est et je lui ai dit à Paris. Et je sais exactement à quoi ça va ressembler pour toi maintenant. Et j'espère que tu vas juste garder la tête sur les épaules, que tu seras patient et que tu ne seras pas frustré avec toute cette attention parce que c'est beaucoup. Donc je peux l'aider à le gérer, mais à la fin, il doit juste apprendre à l'incorporer dans sa vie. D'une certaine manière, c'est triste et c'était un peu la même chose avec Michael. Quand vous gravissez les échelons, vous ressentez parfois un besoin d'intimité. Quand il sort en France, tout le monde le reconnaît. C'est merveilleux, mais ça implique une responsabilité et il apprendra à la gérer.
Alors, Léon Marchand, il n'a pas coupé hein, totalement avec la natation, même pas du tout, puisqu'il continue à s'entraîner à Toulouse. D'ailleurs, il va participer comme prévu au meeting de l'océan Indien, donc sur l'île de la Réunion, du 20 au 22 décembre. C'est une compétition fun hein, de fin d'année avec pas mal de nageurs d'équipe de France, en gros hein, un mix de vacances et de natation. Avant donc un retour aux États-Unis, à Austin, au Texas, c'est le nouveau camp de base de Bowman, pour le premier jour de janvier, nous dit-il. Ça, c'est pas encore totalement bouclé quand même. On pourrait s'attendre à d'autres nouvelles. Et puis, en tout cas, pour lancer une année de réinitialisation, comme Bob Bowman donc, l'a appelé hier à notre micro.
Merci beaucoup, Julien Richard. The Reset. Et vous avez entendu Bob Bowman, très intéressant sur la notoriété à gérer de Léon Marchand. C'est justement l'objet de notre question dans ce débat caché aujourd'hui. Gérer la notoriété, est-ce que c'est plus difficile que gagner? Oui ou non? David Douillet.
Oui.
Fred Weiss.
Oui.
Christophe Cessieux.
Je sais pas.
Tu sais pas. Je te laisse réfléchir quelques instants.
Non.
Plutôt non. Jérôme Pinault.
Non.
Non également. Ok, c'est un 2 contre 2. Juste avant de débattre, écoutez ce que disait en début de semaine plutôt dimanche dernier, Kylian Mbappé sur Canal+, dans l'émission Clic, sur Léon Marchand.
Un an et demi avant les JO, j'ai rencontré lui, sa famille, et la première fois que je le vois, je lui dis « Je t'envie beaucoup, mais bientôt je t'envierai plus ». Il me dit « Pourquoi tu envies ma vie ?» Il m'a dit « Tu es Kylian ». Je lui dis « Ouais, ouais, parce que pour l'instant, toi, tu vis ». Je lui dis « Mais vu ton talent, vu ce que tu vas faire, bientôt tu vas venir avec moi et tu vas plus vivre ». Et il y est en plein dedans. C'est bien, c'est top parce qu'il a écrit l'histoire, il a fait quelque chose de fantastique, mais il va rentrer dans le club de ceux qui sont vus partout et, ouais, et tout le temps.
Et qui ne peuvent plus vivre. Très intéressant ce que dit Kylian Mbappé sur Léon Marchand. Pourquoi non, Jérôme Pinault? Pourquoi c'est
Non, parce que déjà Léon Marchand est un nageur et pas un footballeur. C'est pas un sport de vitrine comme l'est le football. Et puis je pense que c'est aussi une question de suivi, d'éducation et de staff autour de la personne. Gérer la notoriété de Léon Marchand, s'il garde son savoir-être et cette identité qu'il a, je vois pas pourquoi sa vie devrait changer. Il vit,
parce que tu peux faire la même chose, tu peux aller faire tes courses comme tu veux, tu peux pas, parce que tout le monde te reconnaît.
Ouais, mais c'est pas grave. Si tu le fais une fois, deux fois, trois fois, tu sais, moi j'étais très ami avec un joueur du Grand Lyon quand Lyon allait à chaque fois en demi-quart de finale de Champions League. Il avait jamais changé ses habitudes. Bah, au final, les gens font avec. Ils le croisaient au supermarché, au tabac ou je ne sais où.
Attends, comme je ne sais pas qui était ton pote à Lyon.
Non, mais ok, d'accord. Mais Léon Marchand, il vit pas en France. Il y est jamais.
C'est vous qu'on adore ou si c'est. Mais bon,
c'est à peu près de ce tatagabi-là. Donc c'est.
Ouais, mais c'est pas la notoriété d'un Kylian, d'un.
Bah, Léon Marchand, c'est pas la notoriété d'un Kylian non plus. C'est un nageur. C'est-à-dire que il va enchaîner les performances, il va rester très haut.
Les JO, je sais pas, je suis pas
là,
certain.
Là en ce moment, Fred, mais est-ce que ça va durer?
C'est les résultats qui permettront de le dire. Chaque mais fois, les JO, ça a été
chaque fois qu'il arrive.
Pour moi, c'est un truc de fou.
Les caméras sont branchées sur lui.
Même LeBron a cru que c'était pour lui alors que c'était pour Léon Marchand.
Même après les Jeux,
c'était en plein dans les Jeux.
Il était non, mais en novembre, il est allé au match de l'équipe de France de rugby.
Oui.
Ils l'ont repéré.
Bien sûr, mais il va dans les stades.
Il y a 90 personnes qui
si tu veux pas te reconnaître, tu vas pas dans
si tu veux pas te reconnaître, tu fais comme David, tu pars habiter à Bourg-en-Bresse. Au moins, t'es
pas là. Voilà.
Mais justement, David, pourquoi?
Parce que c'est pour moi hyper difficile de battre des records et d'être au top niveau mondial et le meilleur dans sa discipline.
Donc c'est plus difficile de gagner pour toi, et pas de gérer la notoriété.
Que gérer Marie-Thérèse qui dit bonjour chez le coiffeur.
Toi, David, qui a dû la gérer aussi à un moment donné quand ça a commencé à exploser, dis-nous pourquoi, oui, gérer la notoriété, c'est plus difficile.
Bah parce que tous tes repères, ils changent. Et c'est un truc de fou. Faut le vivre pour le comprendre vraiment. Hein. Et je veux dire, quand tu sors de chez toi, et que chaque personne que tu vas rencontrer, dès que t'es sorti de chez toi, jusqu'au soir où tu vas rentrer, elles vont toutes te dire la même chose. Vous êtes le meilleur, vous êtes le plus beau, le plus fort, etc.
Peut-être pas le plus beau, quand même, David, va pas trop loin.
C'est sincèrement un vrai lavage de cerveau. Il faut être solide pour ne pas le croire. Il faut être solide pour fermer les oreilles, parce que les gens sont adorables. Tu vois, c'est normal, c'est logique qu'ils te disent ça, etc., etc. Mais c'est pas vrai. C'est vrai le jour de ta compète, c'est vrai le jour où tu gagnes, mais la veille c'était pas vrai et le lendemain ça ne doit plus être vrai parce que tu dois tout remettre en question pour regagner et reprendre tes habitudes, reprendre tes marques, reprendre ce qui t'a fait gagner la première fois. Et ça c'est hyper dur à faire. Donc bien sûr que c'est plus dur à gérer.
C'est plus dur de gagner avec la notoriété que sans la notoriété, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est plus dur
exactement
à gérer? Je pense que c'est quand même plus dur d'enchaîner les titres olympiques, David, que de gérer ta notoriété quand même.
Non, c'est dur parce que ça peut te faire changer. Et je peux t'assurer que ça a des incidences incroyables. Et heureusement, je suis sûr que ses parents, parce que je connais bien son papa et sa maman, enfin en particulier son papa, on est à l'INSEP ensemble, ils sont intelligents, etc., etc. Et c'est une plus-value incroyable pour lui que d'avoir des parents qui connaissent déjà cette affaire-là. Parce que même ta famille peut changer. Moi, c'était le cas. Des gens dans ta propre famille, au sein de ta famille, changent d'attitude. Et en réalité, on va te reprocher à un moment donné de toi-même changer, alors que c'est les autres qui changent par rapport à toi.
Bien sûr.
C'est des trucs de malade, c'est des trucs de fou, c'est schizophrénique quelquefois, tu vois, c'est même... Et donc, c'est extrêmement compliqué à gérer, à le voir, avoir, à le comprendre, parce que t'as ta vie à mener, personnelle, professionnelle, tout ça s'enchaîne très vite, et c'est une chose très importante, supplémentaire que t'as à gérer, et c'est très compliqué.
Ok.
Vraiment.
Alors moi, je l'ai pas vécu personnellement, mais j'étais à côté de Tony Parker quand c'était incroyable, sa notoriété, parce qu'en plus, c'était avec Eva Longoria, c'était très compliqué. Et en fait, j'en discutais avec lui, et je lui disais, franchement, j'aimerais pas ta vie, parce que ta vie, elle est affreuse. Et il me dit, en fait, j'étais programmé pour devenir une star du basket. C'est-à-dire que je savais où il fallait passer, comment je devais travailler, etc. Donc pour lui, concrètement, arriver à être une star, c'était dans son ADN, c'était logique, parce que...
C'était logique, mais ça c'est son discours, mais est-ce que tu as pu t'apercevoir que même programmé, c'est compliqué ?
Non, mais programmé, c'est-à-dire qu'il a travaillé pour, et que c'était quelque chose qui devait arriver. Sauf que quand ta notoriété te tombe dessus, ta vie change absolument. Avec Tony, on était à l'aéroport, on était obligé de sortir pour guetter un petit peu s'il n'y avait pas des fans, et lui, il sortait après. Enfin, sa vie était... Honnêtement, il était harcelé tout le temps. Tout le monde venait lui demander des autographes. Il pouvait pas marcher tranquillement. Il pouvait pas vivre normalement. Quand tu dis, Jérôme, il allait au supermarché. Non, Tony Parker, à cette époque-là, alors peut-être un petit peu moins maintenant, parce que ça s'est...
Mais
à l'époque, il ne pouvait pas bouger un orteil sans que tout le monde lui tombe dessus, ouais. Soit autour de lui.
C'est invivable.
Et c'est absolument invivable. Parce que nous, on avait les répercussions minime, hein. Encore une fois, on n'est pas Tony Parker, mais on avait les répercussions, et ça nous faisait suer déjà. Donc j'imagine lui, franchement, c'était...
Il y a un an, Kylian Mbappé sur France 2 avait dit, moi je rêve d'aller chercher une baguette de pain.
Bien sûr.
Mais je peux pas.
Mais il peut pas. C'est vrai. C'est complètement vrai. En tous les cas, Tony Parker, de ce que j'ai vu, c'était impossible.
Là, Léon Marchand vit aux États-Unis. Donc déjà, quand on entend les footeux fin de carrière, vont tous là-bas, parce que là-bas, ils retombent dans un certain anonymat. Et en plus, Léon Marchand va vivre à Austin, dans la ville d'Lance Armstrong. Donc, impeccable. Lance Armstrong va prendre
toute la lumière.
Place, évidemment.
Ah bon, encore? C'est fou, ça. Quoi qu'il se passe, quel est le débat? Toi, tu reviens toujours à Lance Armstrong.
Oui,
merci, Jérôme Pinault. Bravo, en tout cas. Et voilà ce que je voulais vous proposer sur Léon Marchand, parce que c'est très intéressant ce que nous disait Bob Bowman. Et vous qui avez eu une célébrité absolument extraordinaire, j'avais envie de...
Moi, ça n'a pas été facile à gérer, ma notoriété.
Bah, moi, ça m'est arrivé sur mon premier Tour de France avec Christophe Cessieux.
Ben oui, oui.
C'était l'enfer pour lui, et franchement, j'aurais pas voulu avoir sa vie, quoi.
Il pouvait pas aller chercher une baguette de pain parce qu'il avait déjà pris 10 croissants.
C'est ça.
11h46. On se retrouve dans quelques instants pour les GG et vous. C'est à vous de débattre, évidemment, et de nous apporter un débat et d'être en confrontation avec une GG. Merci, Julien Richard, d'avoir été avec nous pour cette interview de Bob Bowman que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr. Allez tout de suite avec vous, les auditeurs sur RMC. Pardonnez-moi, un peu de fatigue.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h50 de retour sur RMC avec Christophe Cessieux, avec Fred Weiss, David Douillet, Jérôme Pinault et Maria Azé en Allemagne, Hochfilzen, pour le relais dames. Et ça se passe très bien pour nos Françaises après le premier relais, Maria.
Oui, ça se passe très bien puisque c'est Julia Simon qui a terminé son relais en tête avec 9,5 secondes d'avance, 8 sur 10 au tir et très solide sur les skis. Julia Simon, elle vient de donner son relais à Justine Brezaz-Bouchet qui vient de s'élancer et qui va tenter de garder cette petite avance.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Allez, c'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous composez le 32-16 et vous venez participer à nos débats. Julien est avec nous. Bonjour, Julien.
Bonjour à tous.
Bonjour, Julien. Merci d'être avec nous. Julien, tu veux t'exprimer sur quel sujet ?
Eh ben, j'étais à la radio ce matin. Je vous écoutais parler de l'arbitrage. Donc, moi, je suis arbitre. Et je voulais pousser un petit coup de gueule quand même. C'est surtout le monde professionnel qui déteint sur le monde amateur. Quand on voit l'attitude des dirigeants, des présidents de club, contestés de manière quand même véhémente dans les tunnels de vestiaire, où les arbitres, même professionnels, subissent des intimidations. Comment voulez-vous que les week-ends, dans le football amateur, on n'ait pas ce type de comportement après derrière? Et pas plus tard qu'hier, hein, j'ai fait un match sur des jeunes, des U16, où l'arbitre à la fin du match s'est fait intimider par des dirigeants. Et l'attitude là, malheureusement, on peut plus l'accepter. Et ça manque de fermeté au niveau de la fédération et autres. Et c'est mon coup de gueule du jour.
Bah, t'as raison de nous appeler pour le dire, parce qu'on en parlait ce matin avec les GG. La Ligue 1 est-elle devenue insupportable avec les arbitres? Et on a pu le constater hier, mais à maintes et maintes reprises depuis le début de la saison, lors de la rencontre Marseille-Lille, où les deux entraîneurs se sont plaints de leur côté de leurs arbitres. Ils n'étaient pas contents du résultat.
Et le problème, c'est que les arbitres donnent l'exemple, donnent le là pour tout le football derrière. Et lorsqu'on voit que des stars, des entraîneurs stars comme De Zerbi, des directeurs sportifs comme Benassi, eh bien, s'en prennent aux arbitres ou comme Genesio, eh bien, évidemment, quand t'es amateur, tu te dis, bah, je vais faire pareil qu'eux et je vais m'en prendre à l'arbitre parce que c'est à cause des deux que j'ai été mauvais aujourd'hui. C'est
tellement et on facile. Fera comment quand il n'y a plus d'arbitre? On fera comment?
Julien, dis-nous un petit peu, quand tu arbitres aujourd'hui, est-ce que c'est quand même assez isolé? Bon, il y a un peu de. Ça râle un peu sur le terrain et tout ça.
Un peu basso quand même pour vouloir devenir arbitre, non? Tu crois
non, pas du tout, parce que ça reste quand même un plaisir. J'ai joué au foot aussi, donc. J'aime ce sport. C'est une autre manière de le pratiquer, puisque je reste quand même un acteur du jeu. Hein. Mes décisions vont influer quand même sur le résultat. Elles peuvent influer sur le résultat du match. C'est ce qui est arrivé hier sur le match. Vous pouvez le voir. C'est sujet à interprétation. Dès lors où on a un sport collectif et on n'est pas le seul, que ce soit le basket, le hand, tous les sports co sont sujets à interprétation. On a un sport de contact. Hein. Quand vous allez au basket. Quand Fred Weiss monte au lay-up et qu'il prend une main baladeuse et qu'il réclame la faute et qu'il ne l'obtient pas, il peut avoir de la frustration. On est pédagogue, on reste des humains, on peut discuter sur un terrain, mais dans la limite du raisonnable.
Enfin,
ce qui est
le
plus dur dans notre métier, c'est quand il y a de la véhémence et quand de la véhémence se transforme en haine. Et là, ça devient gênant.
Mais il y a une grosse.
C'est pire en pire.
Moi, je veux juste intervenir sur la grosse différence entre le monde professionnel et les jeunes, comme dit Julien hier, c'est la famille, c'est l'éducation. Mais, évidemment, quand Ligue 1, le papa d'un joueur ne peut pas descendre, mais sur le bord de pelouse, moi, j'accompagne mon neveu Louison, qui est un gamin qui joue au foot. Demain, il joue en 13, il insulte l'arbitre ou il a un problème avec l'arbitre, je suis l'oncle ou le père, je le sors, le gamin. Il y a aussi les parents doivent rentrer dans l'éducation, mais sauf que Julien pour en témoigner. Les parents sont encore plus fêlés que les dirigeants.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Ce qui est un plus insupportable.
C'est un problème profondément d'éducation.
Sur le match d'hier, c'était même pas les joueurs. Les joueurs, il y a eu une décision litigieuse sur le match. L'arbitre discute avec les joueurs. Il n'y a pas un mot. Les seuls qu'on entend, c'est les éducateurs, les dirigeants et les supporters qui sont les parents. Et j'étais hier, d'ailleurs, avec un ancien joueur pro, Julien Cartier, qui était juste derrière moi, je faisais la touche hier. C'était son jeune qui jouait. Même lui me disait, le truc, c'est le problème, c'est que c'est toujours les mêmes. Il fait, nous, on n'est pas là pour t'emmerder, hein. On regarde le match, on profite du match, il y a mon jeune, il est content. Il me dit, et on en discutait, on me disait, putain, ils s'en ont pas marre d'aboyer, c'est toujours les mêmes qu'on voit, et c'est des parents, quoi. C'est ça qui est frustrant.
Je te rassure, il n'y a pas d'arbitre en vélo, mais c'est les mêmes.
C'est
dans tous les sports.
C'est dans tous les sports.
Mais quand, Julien, est-ce que toi
quand
tu sens
dans la
parce que
c'est cool. Julien,
on a l'habitude de parler de l'arbitrage et souvent ce qui nous remonte du football amateur, c'est et tu l'as dit d'ailleurs, hein, c'est de pire en pire. Mais est-ce que ça se traduit véritablement? Est-ce que c'est vraiment de pire en pire ou est-ce que vraiment tu sens de plus en plus de haine à ton encontre et surtout est-ce que parfois tu as peur physiquement? Est-ce que ça arrive ou franchement ça reste quand même exceptionnel?
Encore une fois, hier, je vous le dis sincèrement, l'arbitre du centre, il avait 18 ans. 18 ans ou 19 ans. Je vous assure, à 19 ans, quand vous avez une vingtaine de spectateurs qui est à la sortie du terrain, qui vous attendent, qui vous conspuent pendant une dizaine de minutes, je vous passe les mots d'oiseau qu'il a pu recevoir, les intimidations des autres dirigeants. Vous avez tout d'un coup le secrétaire du club qui va s'en mêler, le président... l'adjointe, je sais pas quoi, le trésorier qui va ramener sa fraise. Et je me dis, ce jeune-là qui a 18 ans, il doit faire face à des adultes, pour la plupart, qui sont la quarantaine, voire cinquantaine, qui ont, je pense, un certain vécu et un certain savoir-être au fil des années, pour tempérer quand même, surtout sur un match de 16 ans. C'est ça qui me dérange. Et quand on le voit sur les catégories jeunes, on le voit de plus en plus sur les catégories jeunes. Et ça, c'est pas normal. Que au monde adulte, vous regardez là, le monde professionnel, je vais vous citer un exemple. Vous n'entendrez jamais votre chroniqueur Vincent Moscato critiquer l'arbitrage au rugby. Il va vous sortir une petite cacahuète, comme ça, pour nous faire rire. Mais jamais il se permettra de critiquer ouvertement un arbitrage.
Exactement.
L'arbitre ne touche pas.
Tu as raison. Et ça, c'était la spécificité. On en parlait du rugby avec Christophe Cessieux tout à l'heure. Merci beaucoup, Julien, pour ce témoignage. Et ben voilà, on te souhaite de prendre du plaisir encore sur les terrains. En tant qu'arbitre amateur, merci d'avoir été avec nous dans les GG. Merci les GG. David Douillet, Fred Weiss, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault. Passez un excellent dimanche. On se retrouve samedi prochain à partir de 9h pour de nouveau les grandes gueules du sport. Merci à notre producteur Maxime Abolin et à notre réalisateur Alban Azaïs. On vous embrasse tout de suite, les Paris RMC autour de la 15e journée de Ligue 1 et notamment PSG Lyon, évidemment. Allez, à tout de suite.